Voilà, bonsoir à chacun, chacune. C'est vrai que quand on est devant de si belles choses, et puis pour moi ça a une valeur encore plus grande, puisque entre le Bénin et Haïti, il y a une histoire. C'est que les Haïtiens, pour la majorité, sont issus du Bénin, et en particulier de la région où nous avons vécu pendant 10 ans. Donc émotionnellement, c'est dur. Justement, on a travaillé avec mon épouse pendant presque 10 ans au Bénin, en milieu vaudou justement, mais l'original, pas celui qui s'est mis encore en plus avec l'Église catholique, ça a compliqué un peu plus les choses, mais toujours est-il que, voilà, nous avons 4 enfants, et puis nous avons eu cette joie de voir Dieu à l'œuvre dans un milieu totalement hostile, où on nous avait promis que ça ne marcherait pas. Et on a pu voir Dieu à l'œuvre, des gens se donner au Seigneur, des prêtres vaudous, qu'on appelle les Bokono, se donner au Seigneur. Je crois que c'est le même...
Bokor.
Ouais, sinon c'est Bokono. Vous voyez, il y a des similitudes. Et qui nous rappelle tout simplement que pour Dieu, rien n'est impossible. C'est une question de temps. Et le temps de Dieu est important. Aujourd'hui, après avoir passé 19 ans en France, où j'ai eu dans un premier temps le rôle de représentant de la CIM en France, puis la direction, eh bien, nous repartons sur le terrain. Et pour faire justement, et ça répond en même temps à la question du frère, justement cette formation qui est à la fois biblique, à la fois formation de leader, formation pour que ces leaders forment à leur tour des leaders, pour que l'Église de Jésus-Christ témoigne de cette grandeur de notre Dieu. Et c'est ce qui m'amène un petit peu à... Puisque le thème, c'est la mission à court terme. Alors j'ai trouvé 2 missions à court terme très intéressantes qui ont débouché indirectement sur une mission à long terme. Une mission à court terme, c'est tout simplement le Seigneur qui l'a organisée. Il en a envoyé 12 dans un premier temps et 70 dans un deuxième temps. Et ça a débouché sur la mission qu'on voit à partir de Acte 13. Alors, je vais essayer de faire court. Et je peux vous garantir que c'est quasiment mission impossible. Donc, j'espère que vous n'allez pas vous endormir en cours de route. Alors, vous connaissez toujours c'est toujours le même principe, hein, je l'avais dit il y a quelques mois quand j'étais ici. Le principe, c'est que si vous vous endormez, ne ronflez pas pour ne pas réveiller celui d'à côté. C'est tout. Alors, pour se rappeler, j'aime bien les moyens qui sont simples pour se rappeler de comment retrouver certains textes dans la Bible. Eh bien, l'envoi des disciples, c'est très simple. C'est Matthieu 10, Luc 10. Et puis, il y a une petite variante, parce que Luc 10, c'est les 70, et Luc 9, ce sont les 12 qui repartent. Quand le Seigneur les envoie, il y a des éléments qui sont importants, et on va faire le lien justement avec la mission contemporaine. Et vous allez voir qu'en réalité, la mission telle que Jésus l'a conçue au départ, elle est largement applicable aujourd'hui, et c'est encore plus vrai quand on vient de voir les reportages ou comme quand on entend le frère Michel qui nous parle du Maroc. Parce que quand Jésus envoie, la première des choses, alors on ne va pas lire les textes, vous êtes censés les connaître. Oui ? Non ? On va faire comme si. Hein. Mais je vous encourage vraiment à les relire après. Mais la première des choses qui m'a frappé, c'est que Jésus qualifie. Il va leur donner le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute infirmité. Il donne le pouvoir. Les disciples, par eux-mêmes, n'ont strictement aucun pouvoir. Ce sont des humains. La preuve, c'est que dans d'autres histoires, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt inefficaces, voire même nuisibles à l'œuvre de Christ. Mais il les qualifie. Et là, j'aimerais attirer notre attention. Très souvent, nous entendons « Oh, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis pas capable. Jamais je pourrais y arriver. » Ça, ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. et il nous qualifie. Il me qualifie. Il y a quelques semaines, j'ai fait un bilan sur le plan psychologique, émotionnel, etc., pour voir un petit peu où on en était. Et il y a quelque chose qui est toujours surprenant, je le sais, mais je suis quelqu'un de très timide et introverti. Vous l'avez remarqué. En fait, c'est ce que je suis réellement. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait avec moi. Mais quand il y a une grande foule, je suis toujours tétanisé. La deuxième chose qu'il nous donne, c'est une prédication. Une prédication qui est simple et qui là, en l'occurrence, c'était « Le royaume des cieux s'est approché de vous. Jésus est là. » C'est très simple comme prédication. Très souvent, on essaye de sophistiquer, et puis alors, plus on est théologien, plus on emploie des gros mots qu'on comprend pas, le théologien non plus, hein, mais plus on y va, et plus on est compliqué, et plus on n'y comprend rien, et c'est l'art d'amener quelque chose de simple vers quelque chose de très compliqué. Dieu fait le contraire, il amène quelque chose de très compliqué, et il nous le simplifie. Le royaume des cieux s'est approché de vous. Jésus est là. C'est tout. Le message est simple. Et il va se faire par des moyens simples qui nous ont été rappelés tout à l'heure. Et que Claire, j'ai beaucoup aimé ton résumé, de dire, c'est vous qui étiez important. Votre esprit de service, votre attitude, c'est ça qui était important. Les Haïtiens, dans quelques années, se rappelleront peut-être même plus des travaux que vous avez faits. Mais vous, dans 20 ans, ils sauront encore votre nom. C'est le message. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. Mais qu'est-ce que je veux faire? Mais c'est jamais quelque chose qui est seulement théologique. C'est aussi quelque chose de très pratique. Et il va leur donner des actions concrètes. Guérir les infirmes, ressusciter les morts, guérir les lépreux, chasser les démons. Des choses très concrètes. Pourquoi? Là encore, je reprendrai ce que Claire a dit, ce qui est le principe d'Ebenezer et de beaucoup de missions aujourd'hui, c'est de s'occuper de corps, âme, esprit, sans les dissocier. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Prêchez le salut. Hein, on a un salutiste avec nous. Soupe, savon, salut. Je dois m'occuper de tout. Je ne suis pas là simplement pour dire je suis en train de faire une campagne d'évangélisation. Et alors ? Mais d'un autre côté, je ne suis pas là pour faire que de l'humanitaire et envoyer en enfer des gens éduqués et en bonne santé. C'est pas mon message. Et le message de Jésus, c'est de prendre l'ensemble et de tout mettre. Pourquoi? Parce qu'il m'aime corps, âme et esprit. Ce qui est normal, c'est lui qui m'a créé. Il m'aime entièrement. Il veut que je sois heureux. J'ai dit une fois à quelqu'un qui passait par des moments difficiles, je lui dis, désolé, t'es condamné à être heureux en Jésus-Christ. C'est une condamnation, c'est sympa. Hein. Mais je suis condamné à être heureux. C'est ce que Dieu veut pour moi. Corps, âme et esprit. Il y a quelques jours, j'étais dans une église où il y avait un handicapé, très handicapé. Et cet handicapé, chaque fois que je vais dans cette église, c'est quelqu'un qui me remonte le moral, ça devrait être l'inverse. Mais c'est quelqu'un qui est, il est complètement difforme, il parle difficilement, il est en fauteuil, etc. Il devrait être là en train de se plaindre et de gémir parce qu'il ne peut pas bouger comme il veut. Et c'est quelqu'un qui est toujours joyeux. C'est quelqu'un qui vient régulièrement pour travailler pour la mission. Vous savez ce qu'il fait? Des boulettes de papier. Juste pour, parce que c'est une maison d'édition. Et cette maison d'édition a toutes les prospectus qu'il y a. Il les froisse, il en fait des boules, et comme ça on peut les mettre pour caler les livres. Il a sa part. J'ai emmené il y a un an un handicapé qui avait beaucoup de mal à marcher. Mais on s'est tous débrouillés pour qu'il soit très utile. Je peux vous garantir qu'il a été très utile quand je l'ai emmené au Bénin. Mais par contre, Dieu a aussi des conditions d'envoi. Faut-il se préparer pour partir au Maroc? Est-ce qu'il faut se préparer pour aller à Haïti? Alors, je vais vous donner les préparations made in Jésus. La première, Ne prenez rien car l'ouvrier mérite son salaire. Là, ça commence déjà mal. Hein, notre sécurité, elle en prend un coup. Pourquoi ? C'est pas que le Seigneur ne veut pas qu'on s'occupe de ces choses-là. C'est qu'il dit, le patron, c'est moi. C'est moi qui te paye. Et je vais incliner les cœurs de ceux qui vont te financer. Et les moyens qu'il va trouver sont parfois vraiment stupéfiants. Un jour, une dame qui était très pauvre, nous soutenait et chaque mois, elle versait une petite somme à la poste. Et un jour, la postière, elle lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là avec, c'est pour qui là ce... Elle raconte ce qu'on fait, elle dit, mais écoutez, je sais que vos moyens sont faibles, alors voilà ce qu'on va faire. Un mois c'est vous, un mois c'est moi. Moralité, tous les mois, elles ont payé toutes les deux. Cette dame à la poste s'est convertie. Dieu a des moyens qui vont bien au-delà de ce que nous avons imaginé. Un autre point, c'est rien que des trucs sympas. Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Bon petit déjeuner. Mais pas pour nous. Ça veut dire que Dieu ne nous promet pas les choses faciles. Il nous promet au contraire des combats, des moments où il faudra se battre, des moments où il faudra résister, des moments où on en aura peut-être marre. Peut-être qu'on y laissera notre peau. Dieu a dit d'aller, il n'a pas dit de revenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il va dire, t'es prévenu. Et une brebis au milieu des loups, elle n'a pas beaucoup de chance normalement. Et pourtant, il nous envoie quand même. Pourquoi ? Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec les loups. Peu importe le loup. Qu'il soit musulman, qu'il soit vaudou, peu importe la puissance qui est employée. Notre Dieu est plus grand. À nous d'avoir les yeux fixés sur lui. Le troisième, il nous dit d'être prudent, comme les serpents. Et quelque chose qui va avec, c'est d'être simple comme les colombes. Prudent parce qu'il nous demande justement d'avoir de la sagesse, de l'intelligence, du discernement dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons. On ne peut pas faire n'importe quoi. Un frère en Algérie, il y a quelques années, et ça a créé de grands troubles, a dit, dans un élan de cœur, nous allons mettre le feu à l'Algérie. Ah ben, il a mis le feu à l'Algérie, ouais. Les chrétiens en ont pâti. Oh, c'est un excès de zèle, c'est un excès de langage. Mais soyons prudents. Et puis en même temps, simples. Excusez-moi, je vais employer un terme un peu jeune, mais on ne se la pète pas. Pourquoi ? Nous ne sommes que de simples ouvriers entre les mains de Dieu. Celui qui fait le boulot, c'est notre Dieu. C'est pas nous. Alors, un peu d'humilité. Et je trouve que justement, ces voyages qui sont organisés, hein, on vient, puis on commence par dire, on va faire, et puis on commence par dire, ah ben, on peut pas faire. Parce qu'il manque ci, il manque ça, il manque la langue créole, c'est déjà embêtant, quoi. C'est des petites choses, mais d'un seul coup, on se rend compte qu'on n'est plus si grand que ça, et que on s'écrase un petit peu. Et ça fait du bien. C'est bon pour notre humilité. Une autre chose qui est intéressante, qui m'a beaucoup frappé, ne saluer personne en chemin. Mais mal poli, hein. Mais non. Pourquoi ? Et nous sommes en train de le vivre, puisque nous sommes en pleine tournée avant notre départ. Combien de personnes disent « Oh, vous retournez au Bénin parce que c'est retour aux sources. » Quelque part, vous êtes en train de fuir la France. Vous êtes un petit peu dur. Vous avez des parents qui sont en mauvaise santé et vous les abandonnez. Comment votre plus jeune qui vient d'avoir son bac, qui doit partir dans une université et vous n'êtes même pas à ses côtés? Et quelqu'un a coupé son soutien à cause de ça. Qu'est-ce qui est important? C'est notre refrain avec ma femme. C'est Dieu a dit, j'obéis. C'est tout. Je n'écouterai pas les gens qui sont en chemin et qui vont être là uniquement pour me dire « Mais non, n'obéis pas !» Mais non, ne pars pas, ne fais pas, reste couché, te lève pas. Bon, au mieux, assieds-toi. Qui vont dire, mais en France, il y a tellement de besoins. Et alors, le Seigneur ne m'appelle pas en France, il m'appelle au Bénin. Si je pars au Bénin, peut-être qu'il me verra. Enfin, des Béninois en France, des Haïtiens et autres. Je crois qu'on est assez représentatif ici. Et une autre, dans les conditions d'envoi, c'est se préparer à être haï et même persécuté. Ça, en général, dans les cours de mission, on essaye d'éviter le sujet. Mais il passe par là. Vous serez haï et persécuté. Et vous savez, dans les sujets de prière, on en parle peu, Michel n'en a pas parlé, mais il risque quelque chose en y allant. Et pas seulement d'être expulsé, ça peut aller plus loin. Même dans des pays dits libres, au Bénin, je me suis retrouvé à devoir fuir et me retrouver à la gendarmerie en haillons et déchiré au point que les gendarmes, quand ils m'ont vu, ont pensé que j'avais eu un accident de voiture. Non, j'étais seulement tombé dans un guet-apens vaudou. C'est tout. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie? On est prêt à chanter jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Puis alors on le fait en quatre voix, hein. Puis avec batterie, machin. Ouais, ça c'est facile. Mais quand on est sur le terrain, c'est un peu moins simple. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu nous demande une consécration à 100%. Jusqu'où je suis consacré. Seigneur, je suis prêt à te donner tout. Mais quand même, t'exagères pas. D'accord? Mon ordi et mon internet, tu me le coupes pas, hein? J'étais dans une église et puis j'avais cité ça et puis il y a une personne qui passe comme ça et elle me fait « Pour Internet, c'est vrai. » Et puis il nous donne des conditions de travail. Pas les conditions d'envoi seulement, mais de travail aussi. Quand vous entrez dans un village, voir si vous êtes accepté ou pas. Et c'est intéressant parce que c'est souvent ce qu'on ne met pas en pratique. Mais quand on n'est pas accepté dans un village, on passe dans l'autre, jusqu'à ce qu'on soit accepté. Et parfois, c'est embêtant parce que stratégiquement, ça nous semble important d'avoir un poste dans cette ville, parce qu'il nous semble que c'est important. Alors, je vais vous raconter, avec la mission et l'église, on avait fait une superbe stratégie au Bénin. On devait aller sur les axes. Les routes sont un peu comme Haïti. Les images qui étaient là, vous changez Haïti, vous mettez Bénin, on ne voit pas la différence. Hein. Et on avait fait donc une super stratégie le long des grands axes faciles d'accès. On va annoncer l'évangile, puis à partir de là, on partira dans la brousse. Vous savez ce que Dieu a fait? Ben, il a inversé le processus. Il est parti de la brousse. Des gens qui se sont convertis durant ce temps-là. Et en fait, quand ils venaient au marché, dans les villes, au bord de la voie, ils ont annoncé l'évangile. Processus exactement inverse. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas forcément simple et qui a été signifié tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez mangé à Haïti, essentiellement? C'est pas un midi des patates, le soir des patates, non, c'était du riz. Et c'est vrai que parfois, lorsque on va quelque part, une des choses qui... Mangez ce qu'on vous offre. Bon, quand je viens dans la région et qu'on m'offre un cassoulet, j'ai pas trop de mal à l'accepter. Ça. Mais quand on m'offre certains plats, c'est pas forcément du premier coup où je dis, tiens, ça doit être bon. Il me dit, je vais goûter d'abord. La première fois que j'ai mangé de la nourriture, j'avais raconté la dernière fois, la première fois que j'ai mangé de la nourriture béninoise, j'avais cru que c'était quelqu'un qui avait été malade. Et en fait, ça c'était en entrant, et après on l'a sorti pour manger. Et puis ensuite, non seulement il y avait ce qu'on m'offre, mais la manière dont on me l'offre. Et parce qu'il fallait manger avec les mains. Alors un Français qui est infirmier en plus, manger avec les mains, c'est anti-hygiénique, et pire que ça, c'est qu'on est tous dans le même plat, et il faut y revenir. Et en plus, une sauce gluante à côté, à base de gombo, et ça vous donne un truc comme ça, vous le trempez dans le gombo, et le fil, il ne veut pas couper. Et vous avez les décorations intégrales. Manger ce qu'on vous offre n'est pas quelque chose de simple. C'est de la mission contemporaine. Mais ce n'est pas toujours. Quand je me suis retrouvé en Centrafrique, et que je me suis retrouvé avec une tête de singe dans l'assiette, ça m'a fait drôle. Ça donne l'impression d'avoir une tête de bébé dans l'assiette. Ça fait une impression un peu bizarre. Et puis, il y a des effets. Les effets de la mission, quand ils reviennent, gonflés à bloc. Et quand j'écoutais le rapport, c'était un peu ce que j'avais comme impression. Ça vous a boosté. Ça donne envie. On a vécu quelque chose qui est tellement fort, qui est tellement bien, qui est tellement super, que... on a envie que ça continue. Et c'est là qu'il va y avoir quelque chose d'important que le Seigneur va rappeler. Il va dire deux choses. Je voyais Satan tomber du ciel, mais vous vous êtes trompés d'orientation. Parce que quand ils reviennent, ils disent, ouais, c'est super, même les démons nous étaient soumis. Les démons, hein. Dehors, ils sortent, c'est super. Ah, non, les super chrétiens. C'est pas ça ce qui est important. Soyez heureux de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Il revient à la base. C'est pas ce qu'on a fait qui est important, c'est ce que je suis qui est important. Jésus, dans un autre passage, va nous dire, il y en a qui vont dire Seigneur, Seigneur, ils feront des miracles, ils prophétiseront en mon nom. Et à la fin, je leur dirai, désolé, mais je t'ai jamais connu. Ils auront fait des missions humanitaires, ils auront fait des évangélisations. Et peut-être que le Seigneur dira à la fin, je ne t'ai jamais connu. Mais Seigneur, je suis venu au culte tous les dimanches quand même, t'exagères. J'ai chanté dans la chorale, j'étais au groupe de jeunes. Seigneur, j'ai même fait partie de Lève-toi, incroyable. Je me suis levé, hein, et pour toi en plus, alors que j'aurais pu prendre des vacances peinards. Et le Seigneur dira, je sais pas, je t'ai pas connu. Ton nom n'est pas dans le livre de vie. Pour moi, c'est un passage qui est horrible. J'ai toujours beaucoup de mal à le lire. Parce que c'est un passage qui m'oblige à me repositionner face à Dieu. Ce que je fais, est-ce que je le fais pour Dieu ou parce que simplement Dieu agit en moi et me pousse à le faire? Qu'est-ce qui fait que je suis en train de faire cela? Parce que l'Église organise quelque chose? Ou parce que l'Esprit de Dieu me pousse? Parce qu'il habite en moi. Parce que je lui appartiens. Et la mission, aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que je lui appartiens au point de dire, je me lève? Est-ce que j'ai même le choix? Mais je ne peux pas parce que j'aime mon Seigneur. Et parce que je l'aime, eh ben, allons-y. Et naturellement, ça amène à cette deuxième partie qui est l'apôtre Paul et ses voyages missionnaires. Non plus, je ne veux pas être très long, mais il y a un verset qui a été lu, c'est dans Actes 14, verset 27, mais qui commence en fait à Actes 13. Actes 13, on se retrouve avec un appel. Et Dieu appelle encore aujourd'hui. Il a appelé certains à rester à Antioche, et il en a pris deux en disant, hop, vous dégagez, vous allez voir ailleurs. Il n'a pas pris n'importe qui, il a pris Paul et Barnabas. Des personnes formées, des personnes engagées, des personnes qui travaillent pour Dieu, qui aiment Dieu, qui ont été formées en théologie, en tout cas, on le sait pour Paul, mais surtout dans l'Église, dans le service. Mettez-moi à part. Et là, on voit aussi le rôle de l'Église. Mettez-moi à part. Seigneur, pas ceux-là. Ils sont précieux, ils sont utiles. Mais l'Église qui accompagne. Il y a un appel, avec reconnaissance de cet appel. L'Église n'a pas eu à dire, Paul et Barnabas, je pense que Dieu vous a appelé. Non, non. Ils reconnaissent simplement, j'allais dire, ils constatent les dégâts. Ils constatent simplement que Dieu les a appelés. et que l'Église doit les laisser partir. C'est l'expression qui est employée. Ils ne les ont pas envoyés. Reprenez votre Bible. Ils les laissèrent partir. Il y a quelque chose quand même qui... Il y a une attache qui est là. Cet appel aujourd'hui, on a un petit peu de mal. Et c'est souvent une des questions dans les églises. C'est quoi l'appel ? Et j'ai aimé justement cette question qui t'a été posée, Claire, sur cet appel. Il n'y a pas deux appels qui sont semblables. Chacun est appelé de manière différente. Mais il faut que l'appel soit clair. Il faut qu'il soit net, qu'il soit précis. On sait que c'est Dieu qui m'envoie pour faire tel travail à tel endroit et à tel moment. En sachant qu'il y a des évolutions. C'est ce que nous avons eu, j'allais dire, la joie de vivre. Je ne peux pas dire tout à fait la joie. Et puis, Paul a cherché des liens pour entrer en contact avec les gens. Il arrive à Chypre. Je vais où ? Il n'y avait pas une mission Ebenezer à Chypre qui pouvait introduire avec un frère qui va un mois avant pour préparer. Non, il n'y avait pas ça. Il y avait même mieux. Il y avait des synagogues. Il y avait des autorités. Et tout au long, Paul va jouer sur le fait qu'il est juif et qu'il est romain. Paul va utiliser en fait tout ce que Dieu lui a donné pour entrer en contact avec les gens. Je sais que quand je suis arrivé au Bénin et que les gens ont su que j'étais infirmier, ben ils sont venus se faire soigner, donc j'avais des possibilités. Ils ont su, pour certains, que j'étais français, et comme c'était des anciens combattants, ils sont venus pour parler du bon vieux temps. Bon, un temps que je n'ai jamais connu, moi, mais... Mais voilà. Et progressivement, les contacts se mettent en place. Il a fréquenté les synagogues, on voit les lieux de prière avec Lydie dans Acte 16. Mais même la prison, quand il est en tôle, c'est un moyen de témoignage. J'imagine à Philippe la tête que devaient avoir les prisonniers et les gardes en entendant Paul et Silas se lamenter. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé. Ça, c'est une version apocryphe. Chanter et louer le Seigneur. Ils sont en prison. Ils n'ont pas été traités tendrement. Ils ont des fers aux pieds, aux mains. Enfin, ils sont bien attachés. Et ils chantent. Nous, déjà, quand ça va bien, on se lamente. Mais j'imagine l'effet que ça a dû faire sur cette population. Eh bien, ils témoignent, ils parlent, ils prêchent. Ce qui va... Et le but de leur mission, c'est d'annoncer l'Évangile. L'apôtre Paul va dire dans Romains 1, verset 5, qu'il veut amener à la foi, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Et puis Jésus mettra ce texte bien connu, cette phrase bien connue, « Faire de toutes les nations des disciples ». Et Paul continuera dans 2 Timothée 2, 2, qui en feront d'autres. Le message est simple, le travail, le but est très simple. Comment est-ce qu'ils ont été conduits ? Alors, je suis toujours assez surpris par les moyens. La majorité du temps, ça a été le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a conduits, c'était par des songes, ça a été par différentes choses. Mais il y a aussi le diable qui les a empêchés. En tout cas, c'est mentionné une fois. Dans 1 Thessaloniciens 2, 18. Et puis, il y a aussi leur intelligence. Il nous a semblé bon. Nous avons pensé que... Et il n'y a pas une seule méthode. Dieu n'est pas une armoire ou... Alors, bon, là, on va prendre la méthode Rick Warren. Et on tient. Ah, ça, c'est the méthode. Non, une méthode. Pas assez spirituelle. La méthode louange. Ah, quand on loue, le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Ma cache. Dieu n'a pas des techniques. Il est Dieu. Il est libre. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et parfois, il peut utiliser des méthodes d'évangélisation, je dirais, pas toujours recommandables. J'aime à raconter que je me suis donné au Seigneur, ou le Seigneur m'a attrapé grâce ou à cause, je ne sais pas ce qu'il faut dire, à une mauvaise note en maths quand j'étais en troisième. Dieu a permis une grande ouverture au Bénin pour l'annonce de l'évangile dans ce milieu où est né le vaudou par mon accident de voiture. Où logiquement j'aurais dû y rester puisque c'était un acte de sorcellerie. Mais je suis là. Et ce sont les prêtres vaudous qui sont venus demander. C'est pas normal. Eh ben non, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Dieu est libre dans son approche. Et même le diable peut être un outil entre les mains de Dieu pour sa gloire. Et oui, le diable ne sait pas tout. Je reprendrais Claire qui disait, il a peut-être que cette longueur-là, mais il fait croire qu'il en a 10 de plus. C'est faux. Ne nous laissons pas impressionner par cela. Un autre point que j'ai trouvé intéressant dans cela, c'est le financement. J'aime pas parler des finances, surtout en France. Mais là non plus, il n'y a pas de méthode. Parfois, Paul a reçu des dons, avec l'église d'Éphèse, par exemple. Parfois, il a travaillé, il a fait des tentes, qui était son métier. Il n'y a pas une méthode. Il n'y a pas la bonne méthode. Actuellement, en missiologie, alors il y a ceux qui sont les bons, les vrais missionnaires. Alors, suivant de quel côté on se place, l'autre, obligatoirement, est mauvais. Le bon missionnaire, c'est celui qui, justement, ne pompe pas l'argent des églises, et il travaille de ses mains, et puis il a son business. Alors là, c'est le vrai missionnaire. Puis de l'autre côté, l'autre, il dit, mais non, c'est moi le vrai missionnaire. Moi, je dépends de Dieu, donc de vous. Et puis, obligatoirement, je vis par la foi des autres. Et donc, non. Dieu est libre et il peut faire verser d'un côté comme de l'autre. Et laissons-nous simplement guider par ce que Dieu veut pour nous. Vous voyez bien qu'on est toujours en mission contemporaine. C'est bien la mission d'aujourd'hui, on a toutes les bases. Et puis il y a les résultats. Il ne travaille pas tout seul, il a des collaborateurs. Alors il a tout un lot de collaborateurs, Silas, Timothée, etc. Il y en a, en général, en fin de lettre, c'est là où on fait à peu près, en début et en fin, on sait à peu près qui a travaillé avec Paul. En fait, on s'aperçoit qu'il a travaillé avec beaucoup de gens. Il n'était pas tout seul. On dit souvent le ministère de l'apôtre Paul. Ouais. Mais enfin, tout seul, il n'aurait pas fait tout ça. Et Dieu, justement, nous oblige à travailler avec des collaborateurs qui sont ce qu'ils sont. Les uns sont sensationnels, les autres sont pénibles. Il y a les gens normaux, ceux qui pensent comme moi, et puis les gens anormaux, ceux qui pensent autrement. Et on va s'apercevoir très rapidement que dans les collaborateurs, ça a déjà assez mal commencé, finalement. Parce qu'ils prennent le premier collaborateur qu'ils ont pour les Barnabas, c'est un certain Jean-Marc. Jean-Marc, il est très gentil, c'est le cousin de Barnabas, très très gentil, et ils partent ensemble, tout va bien, jusqu'au moment où, Jean-Marc, il dit, « Ah non, moi, les difficultés, trop c'est trop, au revoir, je rentre à la maison. » Et ils vont se retrouver plus tard, à Antioche. Et quand ils vont vouloir repartir, et que Barnabas dit, « On reprend Jean-Marc », Paul fait, « Lui, là ? Lui ? Il nous a largué en cours de route, c'est fini !» Et heureusement que Dieu a mis des Paul et des Barnabas. Parce que si on avait eu que Paul, on aurait eu beaucoup de Jean-Marc au bord de la route. Et si on avait que des Barnabas, peut-être qu'aujourd'hui on attendrait encore l'évangile. Tellement il aurait pris du temps avec eux. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus tard, ça les a divisés. Hein. Ça a fait un gros clash. Néanmoins, Barnabas s'est occupé de Jean-Marc, il l'a remis, il a travaillé, il a fait ce travail pastoral, qui fait que plus tard, Paul va dire, Jean-Marc, envoie-le-moi parce qu'il m'est utile. Et c'est pour cela que nous n'avons pas tous les mêmes ministères. Dieu nous donne différents types de ministères, différents types de caractères, pour que l'ensemble des besoins soient couverts. Et heureusement qu'il n'a pas donné à quelqu'un tous les dons. Ce serait catastrophique. Quel orgueil. Et puis, il y a des cas dramatiques. Je pense à Démas. Démas m'a abandonné par amour du présent siècle de Timothée 4:10. Oui, dans le ministère, il y aura des échecs. Même dans les missions à court terme, vous aurez des personnes qui vont peut-être même vous claquer entre les doigts, ça m'est arrivé, des gens qui m'ont pourri le camp, pourri le voyage, parce qu'ils avaient leur propre vision, parce qu'ils n'avaient pas leur confort. Et quand ils rentrent, ils vous assaisonnent. Mais il y a des résultats. Oh, les résultats sont mitigés. Je vais prendre deux exemples simplement. Corinthe et Thessalonique. Deux résultats diamétralement opposés. Corinthe, opération big problem. Thessalonique, leur foi était répandue dans toute la région. Bon, il y en avait bien quelques-uns qui pensaient que le Seigneur allait revenir, il n'y avait plus besoin de bosser. Mais, il y en a qui ont des problèmes d'éthique et de théologie. Mais, des résultats différents. Mais le résultat, il ne nous appartient pas, il appartient au Seigneur. Donc, ce n'est pas à nous de nous inquiéter du résultat. Et parfois, on est étonné des résultats. J'ai rencontré un jeune en janvier qui était un des enfants lors de l'école du dimanche. Et puis, je le vois qu'il fait des études d'infirmier. Puis je dis, ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé à être infirmier? Il m'a dit, toi. En fait, le témoignage que j'avais donné par ma vie a fait que ce jeune a dit, je veux étudier la Bible et je veux devenir infirmier parce que je veux devenir comme lui. Bon, il y en a peut-être ceux qui n'ont surtout pas voulu être comme moi, ils ne sont pas venus me le dire, c'est vrai aussi. D'accord? Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est pareil, des gens qui prient depuis 20 ans au Bénin pour qu'on revienne. C'est pas banal. Le résultat ne m'appartient pas. Tout ça, je l'ai jamais su. Et c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être à la place où Dieu m'envoie. Et puis, bien entendu, il y a le retour. Et je vais terminer avec ça, le retour. Alors, Paul revient, et alors, je trouve toujours étonnant ce qu'il fait. Il se croit à la maison, celui-là. Il convoque l'église. Attends, et ça fait quand même quelque temps qu'il est parti. Il ne fait plus partie de l'église. Non, non, il fait toujours partie de l'église. Il est toujours envoyé de l'église. Il est toujours de l'église. Et pas seulement membre. Mais il a une autorité qui va faire que, dans un premier temps, il convoque l'église. Il raconte ce que Dieu a fait au travers d'eux, un petit peu ce qui nous a été présenté ce soir. Et ça va leur donner une autorité sur quelque chose. À Jérusalem, eux, la vision missionnaire, ils l'ont oubliée depuis bien longtemps, depuis le début en fait. Dieu a pu envoyer une petite persécution sympathique, histoire de leur faire comprendre qu'ils devaient partir. Il ne restait même plus que les apôtres, mais ils ont tout recommencé et ils ont rebâti leur truc. Ce qui fait qu'ils avaient le temps de se bouffer le nez. Ils avaient le temps de se critiquer, de se poser la question théologique. Avec Moïse. Est-ce qu'il faut la circoncision? Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont compliqués. Et Paul et Barnabas vont être justement les délégués d'Antioche pour permettre d'aller à Jérusalem régler ce problème. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait fait vivre des choses que ni à Antioche ni à Jérusalem, ils n'avaient vécues. Dieu leur a donné un crédit supplémentaire parce que justement, ils sont partis. Alors, mission biblique contemporaine, relisons simplement les textes bibliques, elle est particulièrement contemporaine. Il y a tous les principes. Alors, je vous ai dit que c'était en condensé, j'ai essayé de le faire en condensé, parce qu'en fait, il y a tout un chapitre que je zappe volontairement. C'est tout ce qui se passe entre le chapitre 9 et 10 de Luc, qui est pour moi tout ce que les disciples devaient apprendre entre la première et la deuxième, le deuxième envoi en mission. Et si vous relisez ces textes-là, vous verrez qu'il y a une richesse qui est absolument extraordinaire de tout ce que les disciples devaient apprendre suite à un bon débriefing que Jésus leur a accordé après la première mission. Et je suis toujours frappé de la manière dont la parole de Dieu est toujours d'une efficacité extraordinaire pour nous encore aujourd'hui. Donc, ne nous laissons pas, j'allais dire, avoir, laissons Dieu travailler, Si Dieu nous appelle à aller quelque part, n'hésitons pas, allons-y. Il y a des préparations. Dieu nous dit que ça ne sera pas forcément simple, etc. Mais il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre. C'est que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Deuxièmement, le mot impossible, vous le rayez de votre vocabulaire, ça n'existe pas dans le dico de Dieu. Et la troisième chose, Dieu fera au-delà de ce que nous avons pu imaginer et penser. Et si vous pensez que vous êtes nul, là aussi, vous balayez ça, parce que Dieu vous qualifiera pour faire le travail que vous n'avez peut-être jamais imaginé de faire. J'aimerais terminer en priant. Seigneur, tu es extraordinaire et je veux vraiment te louer pour ce que j'ai pu entendre ce soir. Que ce soit ce que tu es en train de faire à Haïti au travers de Ebenezer, mais aussi des autres églises, de l'équipe qui est partie, que ce soit ce que tu es en train de faire au Maroc, même si peut-être on ne voit pas grand-chose, ça paraît difficile, et merci d'envoyer Michel et sa famille. Merci Seigneur parce qu'en tout cas tu nous envoies et tu veux nous utiliser pour ta gloire. Tu veux que nous soyons des enfants qui soient dociles, qui répondent à ton appel, qui partent, tout en sachant que les choses ne seront pas simples, mais que tu pourvoiras. Merci Seigneur, parce que tu es le responsable de la moisson, et tu veux donner à cette moisson un timbre particulier. Et nous voulons voir ces champs qui blanchissent, même si on ne voit rien. Parce qu'avec les yeux de la foi, avec tes yeux, nous pouvons voir ce que nous ne pouvons pas voir autrement. Seigneur, que nous puissions être comme ces disciples qui sont partis. Je ne sais pas ce qui était dans leur cœur à ce moment-là, mais ils sont partis. Ils ont annoncé ta parole. Et je veux vraiment, non pas me réjouir de ce que tu me fais faire, mais je veux me réjouir de ce que mon nom est écrit dans ton livre de vie. Je veux me réjouir parce que je suis ton fils, parce que je peux venir dans tes bras de père. Parce que un jour, nous passerons l'éternité ensemble. Et combien ma prière, c'est qu'il y en ait beaucoup qui puissent nous rejoindre. Que tu bénisses, Seigneur, chacun d'entre nous, chacune des missions que nous représentons et celles qui ne sont pas là, afin que ta parole soit annoncée avec force et puissance, des cœurs transformés par la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen.